Bonjour, vous êtes sur le réseau FM+. Ce réseau réunit deux radios, Alliance Plus à Nîmes sur le 103.1 et FM+ à Montpellier sur le 91 de la bande FM. Tous les vendredis à 10h10, retrouvez Scénorama, émission dédiée à la culture, avec rediffusion le samedi à 12h10 et écoutable en podcast sur notre site fmplus.org. Aujourd'hui, j'accueille Franz Delplanck, directeur du théâtre Jean Villard. Il nous présentera sa saison. En seconde partie, Aurélie Namur et Félicie Artaud nous diront tout, ou presque, sur leur création Isabelle aux 100 visages, à voir du 14 au 16 de ce mois au théâtre Jean Villard, puis en tournée. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je m'adresse à vous trois. Quel est votre sentiment après cet attentat perpétré contre Charlie Hebdo ?
Nous, on était hier en répétition, donc quand on s'est arrêté à la pause, on a entendu cette nouvelle absolument terrifiante. Donc c'est vrai que c'était un grand choc, parce que je pense que la nouvelle a choqué beaucoup de monde. Et puis nous, évidemment, on est en train de travailler sur cette pièce spécifique qui parle d'une femme qui embrasse la religion islamique et soufie. Et que ça nous touche particulièrement parce que, en effet, le dessin de notre projet était de montrer le visage qui, pour nous, est le vrai visage de l'islam. C'est-à-dire un islam pacifique, un islam porteur de valeurs extrêmement positives et qui coexiste avec la pensée la plus haute. Isabelle Ebrard était une femme lettrée, indépendante, voyageuse, libre penseuse et mystique soufie. Donc pour nous, c'est le vrai visage de l'islam, et ce qui a été l'islam qui est défendu par les gens qui font de tels attentats est un islam dévoyé. On est très triste aussi pour toute la communauté des musulmans qui voient leur religion complètement dévoyée par de tels actes qui sont terrifiants.
Aurélie.
Oui, j'ai rien d'autre à ajouter. On était sidérés. Et...
Oui. Franz Delplanck.
Oui, je pense que la sidération, c'est le mot. On était sidérés de voir disparaître aussi des gens qui ont énormément compté dans nos vies, dans notre culture, qui font un peu référence. Enfin, j'ai l'impression qu'effectivement, ce qui est attaqué là, c'est la culture de tout le monde. C'est une culture très populaire aussi. On n'est pas en train de se battre contre des élites. On est en train de se battre là, enfin... Ces gens qui sont des fanatiques et qui effectivement sont à distinguer complètement des musulmans, je crois qu'il ne faut même pas tenter le rapprochement, ont frappé tout le monde, ils n'ont pas frappé seulement des gens de culture. Néanmoins, bon, moi je suis directeur d'un théâtre, je suis d'ailleurs très content de réouvrir le théâtre avec une pièce qui justement parle de l'islam de cette façon-là, et je crois que notre arme dans un théâtre, c'est exactement celle dont ont eu à payer de leur vie les dessinateurs qui ont été exécutés à Charlie Hebdo, et que donc le combat continue, mais il continue avec des armes qui sont des armes de raison et d'émotion, mais un certain type d'émotion. Et je pense que ce qui est très important, c'est de ne pas succomber à... On parle beaucoup d'amalgame, mais c'est pire que ça. Je pense qu'il ne faut pas succomber à la confusion, à ce que dicte la peur. La peur, c'est le contraire de l'amour, et je crois qu'on a intérêt aujourd'hui à être dans un message très très clair sur ce qui nous réunit dans une république en toute aussi tranquillité. On a le droit de ne pas tenir compte de la barbarie, et c'est le message en fait qui passe en ce moment, c'est de ne pas avoir peur. Donc il faut continuer à ne pas avoir peur et à se servir de cette arme qu'est le stylo, qu'est la scène, que sont la musique, la scène, le stylo, les arts, et à faire en sorte que le message qui passe soit vraiment un message de réunion.
Hans Delplanque, depuis cette rentrée, seul le spectacle d'ouverture a pu être joué, le théâtre ayant subi de gros dommages suite aux intempéries. Et hélas, cette fin d'année a été marquée aussi par un deuil.
Oui, c'est une année un peu compliquée. Et c'est vrai que l'émission qu'on fait aujourd'hui est particulièrement marquée. On va essayer de surmonter toutes ces émotions. Concernant le deuil, je commence par là parce que c'est une perte qui nous a beaucoup affectés. C'est donc Saïda Mesgeldi qui est notre artiste associé avec Mathias Beller. Artiste associé qui faisait ce qu'on appelle la création partagée de cette année. Donc un travail avec des femmes du quartier. Sur la création de Rosalie, ça s'appelait Rosalie, en fait c'était un spectacle à propos de Rosa Parks et Saïda avait eu l'idée très, très subtile, très sensible, pleine de tact, de nous parler d'un combat universel, le combat d'une femme ayant refusé de céder sa place, d'une femme noire ayant refusé de céder sa place dans le bus à un homme lorsque l'Amérique était encore soumise il n'y a pas si longtemps aux règles de l'apartheid, et c'est le démarrage du mouvement des droits civiques qui, d'une certaine façon, non seulement conduit à la disparition de l'apartheid dans le monde entier, y compris en Afrique du Sud, même si ça a pris du temps, et qui conduit peut-être aussi à l'élection de Barack Obama, un certain nombre de choses qui étaient très importantes, qui sont très importantes dans notre monde. Saïda travaillait là-dessus avec l'équipe du théâtre. C'est quelqu'un qu'on aimait énormément, enfin qu'on aime énormément. Et donc voilà, il faut que je le dise, il faut que je dise qu'elle a disparu et que nous ferons tout pour maintenir ce projet. J'espère qu'on y arrivera. Et de toute façon, si on n'y arrivait pas, on arriverait à parler encore de Saïda au mois d'avril. Et je donne rendez-vous à tous ceux qui la connaissent, tous ceux qui l'aiment, et puis à tous les spectateurs qui seront intéressés par un hommage à Saïda, parce qu'elle avait aussi, évidemment, comme tout artiste de grande qualité, son public, j'allais dire ses fans, je crois qu'elle en avait pas mal. Et donc, je leur donnerai un rendez-vous en avril, mais c'est un peu tôt pour vous préciser sous quelle forme.
D'accord. Et alors, concernant ces intempéries qui ont fait beaucoup de dégâts sur votre
oui,
théâtre.
Alors, bon, les intempéries, c'est d'un autre ordre, puisque voilà, là, on peut se dire qu'elles sont quasiment derrière nous. En fait, on a ouvert la saison avec le spectacle Alouane de Fethi Abbé. C'était une très belle fête. On a fait deux salles pleines avec des standing ovations tout à fait revigorantes. Donc ça nous a donné de l'énergie pour la suite. À l'époque, on ne savait pas que ça servirait à ça, mais depuis, on s'en est souvenu pas mal. On avait aussi fait l'heureux événement en extérieur. C'était la première édition en fait d'un rendez-vous dans le parc Sophie Desmarais. Donc on avait très bien démarré la saison avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amitié, une organisation. Moi, j'ai découvert en étant nommé au Théâtre Jean Villard la qualité de son équipe. Et franchement, on était très heureux jusqu'à ce que les inondations nous tombent dessus. Donc on a eu un petit mouvement de découragement parce qu'il y en a eu deux quand même. Donc la première ne nous empêche pas de jouer avec de l'eau sous le plateau, mais ne nous empêche pas de jouer donc à Loine. La deuxième, c'était trop, d'autant qu'elle était montée beaucoup plus haut et qu'elle a fait énormément de dégâts. On a à peu près pour 500 000 euros de travaux. On a été fermé 3 mois et en fait, on a 6 mois de travaux. Alors on réussit quand même, notamment parce que les artistes, dont les deux artistes que j'ai aujourd'hui à côté de moi, les artistes ont complètement accepté de prendre le risque avec nous, de travailler dans d'autres locaux, de maintenir quand même cette date. On sait qu'on ne sera pas dans des conditions d'accueil extraordinaires sur le plan de la convivialité. On n'a plus de bar, plus de cuisine, partie des loges dévastées. Mais ça, c'est pas grave, parce que le spectacle, lui, sera accueilli comme il doit l'être, avec les moyens techniques j'allais dire habituel, sauf que avec une nouvelle sono, avec un nouveau plateau, avec un certain nombre d'éléments qui font que ça sera une belle réussite. Donc on est très 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 content d'enfin réouvrir.
ومن لي بغد مثل يومك المتجلي. يا نديمي بدد شجون الصدور بمدام وردية في الخمور. بنت كرم صهباء تجلو الهموم في حياة ملأ أسى وهموما. فاسقني اليوم مذهب الحسرات، لا تكلني لحلم يوم آتي. يا حبيبي يا حبيبي.
Abeb Azrieh sur le réseau FM Plus et en voir, à entendre en concert le 22 janvier à 20h au théâtre Jean Villard. Franz Delplanque, est-ce que vous voulez nous présenter cet artiste magnifique?
Oui, magnifique. On vient de l'entendre, donc il n'y a pas grand-chose à en dire, puisque tous ceux qui ont bien écouté savent déjà qu'ils doivent y aller. Abeb Azrieh, c'est tout simplement à la fois un très grand musicien, un très grand homme. Si vous regardez un petit peu sa bio, vous verrez qu'il a rencontré René Char, qu'il admirait beaucoup, Jeff Buckley, enfin je prends des extrêmes, des gens très différents, ou Leonard Cohen, qui considère que c'est un musicien de référence pour eux. C'est un très grand musicien. Il est d'origine syrienne. Il est en France depuis les années 60. C'est un homme qui chante les femmes, le vin, la bonne vie. Et pourquoi pas la version de l'islam qui est tout à fait compatible non seulement avec la République mais avec les gens.
Mmh. Alors Franz Delplanque, quelles sont les nouveautés de ce théâtre Jean Villard qui va subir de grands et beaux travaux, qui est déjà en cours?
Écoutez, le principe, on dit un mal pour un bien, bien pour un mal. Ces inondations, finalement, nous ont un peu fait souffrir, mais d'une part, je tiens à préciser et aux spectateurs et à ceux qui se font du souci pour les artistes qu'on avait programmés, que nous les reprogrammerons à la saison prochaine. À part Féloche, qui lui avait un emploi du temps bien garni, il a été possible de reprogrammer tout le monde.
Oui, donc, parce que 9 spectacles ont quand même été annulés entre octobre et maintenant.
Voilà, alors moi ça m'oblige à faire quelques petits sacrifices, parce que comme programmateur, j'ai aussi... Ce vice de la programmation, mais c'est pas grave, on a privilégié l'idée d'être fidèle aux artistes qu'on voulait présenter et d'être fidèle au public qui voulait les voir, donc on les reprogrammera. Ensuite, on rouvre le théâtre avec du coup un certain nombre de travaux qui étaient nécessaires et qu'on aurait dû faire, mais qu'on aurait sans doute mis plus de temps à faire. Donc on refait le plateau, ça fait quand même, il avait déjà 20 ans de bons et loyaux services derrière lui. On va repeindre la cage de scène, on va avoir une nouvelle sono. Il y avait une rénovation qui était prévue du bar du théâtre, elle a été maintenue. Et on va refaire un certain nombre d'installations qui servent aussi bien aux artistes qu'au public, les pendrillons, etc. Donc on va finalement avoir un théâtre quand même sérieusement rénové et amélioré sur pas mal de points. Et on le doit, certes aux assurances, mais on le doit aussi au fait que la ville a vraiment, vraiment tenu à ce que nous ne souffrions pas et ne pâtissions pas de ces inondations. Et je dois aussi remercier les services de la ville. J'en profite pour remercier le service dit de la DTMAS. Alors c'est un terme un peu compliqué, mais qui est celui qui s'occupe de la rénovation en fait, du théâtre en ce moment, et qui a été particulièrement collaboratif.
D'accord, alors il faut préciser que ce théâtre est niché dans le chai d'une folie du 18e, propriété des barons de Sely à l'époque. Il s'agit d'un théâtre municipal, né en septembre 1994.
Voilà, c'est le théâtre de la ville de Montpellier. Il est à la Paillade et effectivement, du coup, c'est une propriété de la ville. Ça a été racheté par la ville il y a déjà fort longtemps et c'est la ville qui s'est chargée de le rénover.
Franz Delplanque, quels sont les grands axes de cette saison ?
Alors, en fait, les grands axes de la saison, bon, c'est de continuer. Alors, c'est pas un axe en soi, une programmation éclectique. On est le théâtre de la ville, donc on essaye d'être le plus ouvert possible à toutes les formes de spectacle vivant. On a quand même largement un ADN théâtre, hein, c'est principalement du théâtre. De la chanson, on est un des lieux de référence de la chanson sur le territoire montpelliérain. On fait aussi un peu de danse, de cirque. Et il se trouve qu'on a voulu marquer le coup sur cette saison de l'ouverture vers le quartier, de bien montrer qu'on n'était pas à la Paillade par hasard. Et pour ça, on s'est donné deux axes. Le premier, c'est celui qu'on pourrait appeler une reconnaissance des diversités culturelles, et pourquoi pas des cultures d'origine. Donc on a essayé de lui donner une tonalité méditerranéenne, en tout cas d'en mettre un peu. C'est une question d'équilibre, il ne s'agit pas de tout faire autour de la Méditerranée et des cultures d'origine, notamment du Maghreb, mais on a essayé de donner cette tonalité qui est si belle de toute façon, et puis nous sommes une ville méditerranéenne, et puis on a aussi essayé de mettre l'accent sur de la création partagée, sur du travail avec les habitants, donc c'est valable pour aussi les saisons qui viendront, on essaye le plus possible d'être un lieu où les habitants peuvent s'exprimer.
Oui. Alors le théâtre Jean Villard, c'est aussi un soutien aux artistes régionaux avec mise à disposition du plateau, de l'équipe, des résidences. Bon là, évidemment, vu les circonstances, les artistes n'ont pas pu trop profiter du plateau. Je pense à la création de la compagnie Les Nuits Claires, mais donc qui fait partie de ces artistes en résidence. Il y aura aussi la compagnie nocturne de Luc Sabot avec Évaporé à voir le 20.
Sur les
Évaporé.
Pardon, c'est sur le Évaporé, c'est 29 les 29 et 30 janvier.
Voilà,
pardon.
Et 30 janvier, oui.
Excusez-moi.
Et le collectif 2-3-3 Mouvement avec « Je suis fait du bruit des autres » à voir le 24 et le 26 février. Un spectacle en collaboration avec Montpellier Danse,
c'est ça ? Alors, c'est un spectacle en collaboration avec Montpellier Danse. Très rapidement, dire quand même que c'est le théâtre La Vignette qui nous a permis de rebondir pendant ces inondations en accueillant un certain nombre d'opérations qu'il y avait sur le plateau, et notamment les résidences de création. Donc voilà, la compagnie Les Nuits Claires est au travail en ce moment sur leur plateau, donc je remercie vraiment leur équipe, leur directeur, Nicolas Dubourg, qui s'est montré très solidaire. Tous les théâtres m'ont proposé spontanément, sans exception, de faire quelque chose pour nous. Donc voilà, ça nous a bien aidé. Oui, effectivement, 2-3 Mouvements et aussi le projet Rosalie sont deux projets de création partagée, c'est-à-dire où des habitants travaillent au plateau avec des artistes et où on parle ou pas d'ailleurs du quartier, mais en tout cas on en parle, on crée avec les habitants. Pour le reste, sans décliner toute la programmation, je pense que les temps forts, c'est évidemment la création d'Isabelle sans visage, la création d'Évaporé, la création aussi de Nourdine Barra, qui s'appelle Et je leur dirai quoi, qui est au mois de mars.
Oui, qui sera à voir au bar du théâtre.
Voilà. Alors le bar du théâtre sera en travaux du coup puisqu'on a du tout décalé, mais on va trouver un nouveau point de chute pour ce spectacle. On est toujours d'ailleurs en train d'essayer de trouver le meilleur point de chute possible. On a quelques pistes. Bref, il va y avoir quelques petites modifications. Il faut se reporter au programme en ligne du théâtre. Ne pas hésiter à nous appeler. Et puis surtout, vraiment venez découvrir les artistes d'ici que sont la compagnie Les Nuits Claires. Aurélie et Félicie vont vous parler de leur projet. N'oubliez pas de venir voir Évaporé de Luc Sabot, c'est une petite merveille. C'est sur un texte de Sébastien Joagnès, qui est un auteur aussi de la région. Nourdine Barra, c'est aussi incontournable. Il y a d'autres spectacles que j'adore et que j'aime, mais je vais finir par occuper trop de temps et peut-être aussi générer une certaine confusion. Donc je m'arrête là.
Oui, puis j'invite les auditeurs à aller voir votre site internet qui est très très bien fait, théâtrejeanvillard.montpellier.fr. Donc ce théâtre se situe 155 rue de Bologne, dans le quartier Lamousson. Vous pouvez prendre le tram, c'est la ligne 1, vous vous arrêtez au hall Payade, et vraiment le théâtre est juste à côté. Les tarifs très très raisonnables sont de 5 à 15 euros. Et un téléphone pour la réservation, 04 67 40 41 39. N'oublions pas l'espace bar et restauration, une heure avant et une heure après. On termine, on fait la transition avec la seconde partie avec Dick Annegarn, qui est programmé donc au Théâtre Jean Villard le jeudi 12 mars à 20h. Vous voulez nous dire quelques mots très vite, Franz, sur cet artiste?
Ah, Dick Annegarn. Alors Dick Annegarn, c'est une vieille passion chez moi. Je pense qu'on est tous nés avec Dick Annegarn. Ça fait partie aussi des artistes qu'on connaît depuis tout petit, qu'on subit hein, quelquefois. C'est un artiste qui a commencé en plein babacoulisme et qui dure jusqu'aujourd'hui. J'aime autant vous dire que dans les années 80, Dick Annegarn, je l'aurais pas programmé. Mais Dick Annegarn, en fait, aujourd'hui, quand je réécoute ce qu'il faisait dans les années 70, je me rends compte que c'était un très grand artiste et que ça, quand on est universel à ce point, ça marche. Juste une précision sur cette chanson, écoutez-la bien, elle est un peu sur les malentendus de l'amour. Elle est aussi dans un langage très belge, comme quoi on peut dire des choses qui ont beaucoup de sens sans parler exactement comme il faut.
On écoute et sur ce le réseau FM+.
Si tu n'as pas connaître le profond de mon être, c'est tant pis. Tu sais pertinemment que ça fait un petit moment que c'est long. Je fais tout pour l'amour et toi tu dis toujours pas comprendre, ah, que tu es pour moi, ah, que beaucoup de joie et de peine, que toi, y en a que pour toi. Et moi, ça n'existe pas. Si tu n'as pas compris que mon cœur est si tendre et bleu, quel ami, quel amant a vu passer le vent si près. Ça souffle fort, tu ne trouves pas. Est-ce qu'on ne ferait pas une pause? Toutes nos piles sont à plat et tu me fais malgré ça quelque chose. Que toi, y'en a que pour toi. Et moi, ça n'existe pas.
Sonorama, c'est tous les vendredis à 10h10, avec rediffusion le samedi à 12h10 sur le réseau FM+, donc 91 FM à Montpellier, 103.1 à Nîmes, et bien sûr écoutable en podcast sur notre site fmplus.org. Alors pour cette deuxième partie, eh bien Aurélie Namur et Félicie Artaud sont avec nous. Voici deux femmes, je dirais d'exception, hyper talentueuses. Elles se sont toutes deux formées à la pratique théâtrale. Aurélie au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, Félicie à l'INSAS de Bruxelles. C'est en Italie que vous vous rencontrez lors d'un stage européen dirigé par le metteur en scène Pippo Del Bono. Et depuis, chère Aurélie et Félicie, vous ne vous quittez plus, c'est bien ça?
Oui, c'est l'air quand ça. Même, des fois.
Vous avez quand même une vie personnelle, on va dire. Hein. Nous ne la dévoilerons pas, mais...
Oui. Et on fait aussi quelques échappées, parfois professionnelles.
Alors, vous avez créé votre compagnie Les Nuits Claires en 2007 à Villeneuve-les-Maglones. Depuis, on peut compter à votre actif 469 représentations en France, 113 à l'étranger. Et donc c'est qu'un début, on va dire. Deux lignes artistiques sous-tendent le travail des Nuits Claires. Est-ce que vous voulez bien nous les présenter?
Ben oui, la spécificité des Nuits Claires, c'est donc de réunir une auteure, autrice et une metteur en scène et de monter donc les textes. Nous montons les textes d'Aurélie et donc sur le plan esthétique, c'est vrai que c'est vraiment des créations contemporaines et une synergie entre le plateau et le travail d'écriture d'Aurélie.
Oui, en fait, il n'y a pas énormément de compagnies hein, qui font ce binôme.
S'il y en a un grand exemple dans notre région avec Tirpa la Nappe, donc
oui,
c'est
voilà,
vrai que c'est
voilà,
très proche.
À part Marion Aubert, on n'en a pas tant que ça. Quoi,
oui, ça après, je ne sais pas.
Spécificité montpelliéraine, en fait.
Voilà. Talent montpelliérain.
Binôme féminin, auteur, metteur en scène.
Oui. Alors, dans vos créations plutôt épurées, le corps tient un rôle central, n'est-ce pas?
Tout à fait, c'est vrai qu'il y a eu une passion commune, je dirais, d'Aurélie et moi, pour le corps, la chorégraphie, et c'est vrai que dans notre rencontre, il y a ça aussi, puisqu'avec le metteur en scène Pippo Del Bono, on avait travaillé très très fort sur la dramaturgie du corps, et que c'est quelque chose qui, à chacune à notre endroit, nous a passionnés, et c'est vrai que nos spectacles ont intégré souvent des disciplines ou chorégraphiques, ou circassiennes, ou la marionnette, ou aussi des problématiques liées au corps.
Oui, alors je citerai au niveau de vos créations, eh bien, votre première pièce, Blanche aussi, il y a Mon Géant, Le Voyage Égaré qui a énormément tourné. On se souvient aussi,
on se suivra de près.
Et votre création, Isabelle au sans-visage. Alors, est-ce que cette création est dans la même veine que les spectacles précédents?
C'est-à-dire que pour la première fois, je pense qu'il y a moins, pour Isabelle sans visage, une place centrale donnée au corps et davantage à la musique. Voilà, c'est le défi de ce spectacle. Alors c'est encore donner un endroit de narration, pas forcément aux mots, mais cette fois-ci c'est plus au corps, mais à la musique.
Voilà. Ouais. Aurélie Namur, qu'est-ce qui vous inspire? Tous ces textes magnifiques.
Je crois que j'aime écrire des histoires, d'abord, et j'aime l'émotion aussi. Je crois qu'on fait un théâtre d'émotions et d'histoires. D'autres personnes me disent « Ah, on se rend compte que c'est souvent des voyages initiatiques, des voyages en tout cas, et je m'en rends pas complètement compte. » Et c'est souvent des femmes aussi.
Oui.
Et j'avoue que je ne l'ai pas décidé. Après, je crois que souvent dans la vie, il y a une chose qui nous anime, et on la décline, on tente ailleurs, mais enfin c'est un noyau secret dont je ne suis pas forcément très consciente.
Elle se fait belle pour la dernière fois. Elle se rase le crâne, se rince la bouche. Dans quelques heures, elle retrouvera son amour.
Dans quelques heures, le silence recouvrira la ville.
Elle l'enlacera sous ce toit où cogne la pluie et comme un flot, elle lui racontera tout. Son reportage dans le désert, sa retraite soufie, son...
Vous entendez ? Au loin ?
Au loin.
Un torrent de boue jaillit du djebel. Ça va sur la ville. J'arrête tout sur son passage. Rochers, troncs d'arbres, hurlements, cadavres de chiens, restes de maçonnerie libres.
Et elle ?
21 octobre 1904.
Noyée dans le désert à 27 ans.
Elle.
Isabelle.
Isabelle de Murder.
Isabelle Eberhardt.
André Vivikos.
Madame Henny.
Mahmoud Saadi.
Saadi, le bienheureux.
Isabelle au sans nom, au sans histoire, au sans visage, qui est-elle ?
Elle n'existe plus.
Voici sa vie.
Isabelle au sans visage, donc à découvrir au théâtre Jean Villard du 14 au 16 janvier. C'est le tout début de la pièce, n'est-ce pas ?
Le prologue.
Le prologue. Alors, est-ce que vous voulez nous présenter cette femme au parcours incroyable ?
Oui, Isabelle Eberhardt est une femme russe qui ensuite est devenue par mariage française. C'est d'abord une journaliste, une écrivain. Qui est morte tragiquement à 27 ans dans la crue d'un oued en Algérie. Elle est connue pour avoir été la première européenne soufie. Elle est connue pour avoir voyagé en Algérie vêtue en homme. Elle est connue pour ses articles avant-gardistes et voilà, et pour cette liberté. Voilà, donc cette femme, j'ai l'impression de jamais l'avoir rencontrée. Elle était dans la bibliothèque de mon enfance. C'est quand même une femme aussi de légende, une grande voyageuse comme Alexandra David-Neal, comme beaucoup d'autres. Mais elle a ceci de différent qu'elle a tout entrepris sans aide. Et c'est vraiment une héroïne qu'on pourrait dire avec nos mots d'aujourd'hui « trash ». Voilà, elle a vraiment galéré et elle a... Et c'est une femme qui... est aimée des deux côtés de la Méditerranée. Voilà, c'est une femme de légende des deux bords de la Méditerranée. Elle a sa tombe à Ain Sefra en Algérie, elle est vénérée là-bas aussi. Et il me semble qu'elle conjugue deux choses fondamentales de l'Orient et de l'Occident, à savoir la liberté de l'Occident et l'Orient. Elle s'est complètement fondue dans cette culture et l'idée du communautarisme, voilà, de la Ouma.
Oui. Alors donc vous êtes emparé de ce portrait pour en fait en faire une fiction et aborder certainement des thèmes que vous avez à cœur.
Oui, je voulais, depuis un certain temps, je cherchais à écrire une pièce qui donne non pas un autre visage de l'islam, pour reprendre le terme du livre d'Eva de Meyerowitz, mais pour donner le vrai visage de l'islam, en tout cas un visage qui est difficilement montré compte tenu des amalgames, comme on disait tout à l'heure, de la radicalisation des propos. Et j'avais à cœur de montrer un personnage qui embrasse l'islam de manière positive. Donc il m'a semblé qu'Isabelle Eberhardt était la personne idéale pour ça et qui en plus avait vécu il y a un siècle. Donc ça, le recul du siècle permettait de mieux voir les échos, les différences certes, mais voilà. Mmh. Et après c'est pas une biographie, c'est pas une hagiographie, c'est vraiment un texte théâtral. Il m'a fallu tirer un fil pour en faire un texte théâtral. Voilà. Donc j'ai inventé des choses, j'ai fait mourir des gens pas exactement au bon moment, j'ai sélectionné et j'ai parfois inventé. Et le fil que j'ai tiré, c'est le fil du soufisme. Voilà. Je trouvais que c'était intéressant de parler d'islam par le biais du soufisme notamment.
Alors vous écrivez, je cite, « Ce texte est plus qu'une invitation à l'Orient, l'invitation à nous décentrer enfin. »
Oui, quand on va par exemple à Soran, on a une table entière où il y a des livres titrés identité, quelle identité actuellement, etc. C'est devenu un sujet apparemment crucial et il me semble qu'Isabelle Eberhardt répondait à ça en ayant plein d'identités. En étant extrêmement complexe, en brouillant, en cherchant des racines de toutes parts, en étant polyglotte. Voilà, donc en se mettant pas dans un seul carcan. Voilà.
On écoute, c'est sur le réseau FM+.
6 ans plus tôt. Hiver 1883, dans la maison famille. À Genève, Isabelle grandissait. Et Natalia se fanait.
Maman, c'est... Elle en devient pleurisée chronique. Les défiances policières, le poids du scandale...
Attends, peut-être qu'il faudrait qu'on vous explique un peu quel scandale.
Oui, un enfant hors mariage avec le précepteur Alexandre Trofimovski, le communiste, un terroriste peut-être.
À Genève, la famille est étroitement surveillée. Le courrier intercepté et la police guettait le moindre faux pas pour les expulser.
Le lac Léman n'a pas vocation d'accueillir tous les terroristes.
Isabelle, arrête le piano, tu veux.
Le dernier à s'enfuir fut Nicolas.
Isabelle, c'est un abus de piano.
Si j'allais à l'école, j'aurais des copines.
Comme je disais, le dernier à s'enfuir fut Nicolai.
Il est où, Nicolai?
Elle se fait la malle en Algérie.
Dans la Légion.
C'est quoi, l'Algérie?
Vous avez noté?
Isabelle au sans-visage, donc à découvrir au Théâtre Jean Villard du 14 au 16 janvier à 20h. Est-ce que vous voulez bien nous situer la scène?
Oui, tout à fait, c'est dans l'enfance d'Isabelle. Cette scène s'appelle l'Égérie. Aurélie jouant avec le mot égir et le mot Algérie. C'est la première fois que la petite Isabelle, qui a 5 ans, entend le mot Algérie et le comprend de travers, Égérie. Donc voilà, naissance d'un rêve dans l'esprit d'une jeune tête.
Oui. Alors, 4 comédiens sont sur scène, 2 hommes, 2 femmes. Ils sont polyglottes et musiciens. Et donc, ils racontent ce parcours avec leurs mots d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Enfin, là, je vais un peu parler pour Aurélie, mais je crois que il y avait vraiment l'envie chez Aurélie, et que je rejoins, que ces narrateurs parlent dans un présent au public de cette histoire qui a un siècle. Et donc, il y a une espèce d'aller-retour entre narrateur et personnage, avec cette capacité à raconter directement cette très belle histoire au public, et à parfois pouvoir incarner des personnages et des situations devant eux.
Pour moi, ça aurait été raté si c'était une pièce historique sur la vie d'Isabelle Eberhardt. C'est pas le propos, en fait. Mmh. Et le fait de faire des narrateurs, de proposer 4 narrateurs d'aujourd'hui, c'est toujours dans l'idée de raconter cette histoire sous le regard d'aujourd'hui.
Oui. Isabelle au sans-visage est une pièce épique et poétique. Hein. Et donc, elle mêle narration, dialogue. Chaque scène est en prise directe, comme vous disiez, avec les situations et s'adresse au public.
Oui, tout à fait. Épique aussi parce que c'est une fresque. Parce que retracer 27 ans d'une vie aussi complexe et foisonnante donne nécessairement à la pièce une ampleur. Il faut promener le spectateur de la Suisse où elle est née, à l'Algérie, à Marseille. Et donc, voilà, ce côté de fresque, c'est de transporter le spectateur de lieu en lieu, d'époque en époque, bien sûr.
Voilà, tout à fait. L'idée, c'était pas de prendre une Isabelle Eberhardt déjà connue, déjà dans le désert, déjà avec un comportement équivoque pour certains. Voilà, c'était l'idée qui sous-tend toute cette pièce, c'est comment on devient un personnage hors norme, en tout cas qui fait des choix radicaux. Et pour moi, c'était très important de la prendre dès sa naissance. Et ceci a donné le genre à la pièce, c'est-à-dire quelque chose, oui, d'épique. En tout cas, ça va à toute vitesse et chaque scène est un éclairage, voilà, de cette vie.
Est-ce que vous voulez bien nous présenter les comédiens qui sont sur scène ?
Oui, bien sûr. On a cherché des comédiens avec des compétences spécifiques, puisqu'on voulait du chant et du piano. Donc on a une comédienne pianiste qui s'appelle Céline Rallet, qui joue notamment la mère d'Isabelle, Natalia, et puis qui joue du piano pendant tout le spectacle, ainsi qu'Aurélie. Il y a Mohamed Bari, c'était aussi très très important pour nous que certains personnages soient incarnés, joués, interprétés par quelqu'un qui soit locuteur arabe, ce qui est le cas de Bari, puisque c'est sa langue maternelle. Et c'est vrai que ça apporte énormément au projet, puisqu'il fallait amener l'Algérie, il fallait amener toute cette langue, cette culture, et que Aurélie aussi a pensé son texte traversé de langues étrangères. Aurélie Namur, qui joue Isabelle Ebrard, et enfin Romain Lagarde, qui est un comédien de la région et qui joue aussi beaucoup en national et en Suisse. Voilà.
Oui. Et alors, donc, vous parliez des langues. C'est vrai que vous parlez aussi bien français, allemand, russe, arabe. Vous chantez. D'ailleurs, Adil, le chanteur musicien du groupe Aywa, c'est ça, vous a un peu coaché, on va dire.
Tout à fait. Il a fait travailler les comédiens sur le chant avec particulièrement de talent, d'ailleurs, et de pédagogie. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui demande aux acteurs beaucoup. Voilà. Beaucoup en termes de présence d'acteurs, de talent, voilà, de rythme, de musicalité, de capacité à jouer des rôles, beaucoup d'habileté. Ouais.
Alors, comme vous disiez, la musique est très présente, notamment dans le piano. On écoute un tout petit extrait. Sur le réseau FM+, donc les filles sont mortes de rire.
C'est une scène qui n'est pas tout à fait réglée, justement.
J'ose pas rire, moi, de mon côté.
Mais vous en mourrez d'envie, François Plan.
Pardonne-nous, Stravinsky, s'il te plaît.
Bon, c'est un petit clin d'œil, on va dire. C'était encore une répète.
Extrait du massacre du printemps.
quelques mots sur la scénographie, Félicie.
Le défi de la scénographie, c'était de pouvoir évoquer plusieurs lieux, comme je le disais précédemment. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup cogité avec la scénographe sur un espace qui puisse vraiment être un espace à jouer, qui soit vraiment dans cette idée de narration épique où on dit un titre, paf, on joue une scène, on est quand même dans une forme de convention. Et en même temps, quand même, d'une part, voyager. Il fallait quand même, dans ce spectacle, faire voyager les spectateurs. C'était impératif. Donc oui, on est sur une espèce de complicité avec le public qui imagine. Et donc, on est dans la convention. Et oui, à des moments, il faut vraiment qu'on parte. Donc voilà, on a travaillé sur un décor qui soit à la fois radicalement simple et épuré. Et puis qui, à un moment donné, par le biais des lumières, puisse nous faire décoller.
Voilà, j'allais dire, sans tout dévoiler, oui, les lumières ont un rôle important, les vidéos. Hein,
voilà.
Alors bon, ce spectacle, eh bien, comme je vous disais, est à voir du 14 au 16 janvier au Théâtre Jean Villard à 20h. Il sera joué le 27 mars au Chez du Terral, à Saint-Jean-de-Védas. Et après, vous avez une bonne douzaine de dates en France et une tournée
en Belgique.
Donc un spectacle qui s'annonce pour une belle aventure artistique.
Et Avignon.
Et Avignon cet été.
Ouais.
Ah, super.
L'occasion de dire aussi que le Chez du Terral est très souvent le compagnon du Théâtre Jean Villard sur le soutien aux artistes du Languedoc en général.
Voilà. Tout à fait. Je termine avec le téléphone peut-être du théâtre Jean Villard, parce que je conseille aux auditeurs de réserver pour ce spectacle. Donc c'est le 04 67 40 41 pardon, 39. On termine avec un dernier extrait. Peut-être qu'on aura le... Je pense que nous aurons le temps ensuite pour situer la scène. On écoute, c'est sur le réseau FM+.
Le 27 avril 1898, commissariat de Genève. Expulsion. Signé Nadia. Signé votre frère Mahmoud. Signé Isabelle de Murder. Non, votre bâtarde n'est pas une murder. Et elle portera en plainte pour usurpation d'identité.
Ma fille publie des nouvelles en France et en Russie. Avec un pseudonyme masculin, c'est plus facile.
Vous vous moquez de moi ? Elle a des dizaines de noms différents.
Mais ma fille joue des rôles.
Fréquenter les bas-fonds, vous appelez ça jouer des rôles.
Elle fait des investigations pour ses personnages.
Et voilà, laissez faire. Elle déambule en djellaba là-bas dans les rues. Elle lit la presse ottomane, même du genre sang, et vous la laissez faire. Votre fils Augustin, il se drogue. Il a des mœurs dissolues. Et vous le laissez faire, c'est vrai. Que vous, ça fait 20 ans qu'on vous prélassez avec un communiste. C'est votre rang que vous trahissez, madame la comtesse. Je vous ordonne de vous asseoir. Mise en garde avant expulsion définitive. Une plainte a été déposée contre Alexandre Trofimovski pour attouchement sexuel.
Qui porte plainte ?
J'ai pas le droit de le communiquer.
Vous êtes sur le réseau FM+, donc pour un dernier extrait de Isabelle au sans visage, l'émission se termine. Je vous souhaite un très bon week-end, de bons spectacles, et puis nous viendrons vous voir, bien sûr, au théâtre Jean Villard.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.
Merci à Manu qui est à la technique.